Et au menu de notre club cet après-midi, un prix Nobel de physique, un astronome amateur et un égyptologue du 21e siècle. Je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, une découverte dans le domaine des maladies auto-immunes et des infections chroniques.
Oui, empêcher notre corps de s'abîmer avec ses propres armes, c'est la proposition d'une équipe française qui publie cette semaine dans Nature. Ils sont avec nous pour nous parler des interférons.
Et Stéphanie Texier réalise ce club des têtes au carré préparé par Chantal de Montagny, Lucie Sarfati et Pierre de Certaine.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue les invités du club, Laurence Plévert, Aline Richard, Simon Thuot et Cyril Plou. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Et bienvenue. Laurence Plévert, votre biographie de Pierre-Gilles de Gênes, le gentleman physicien, sort en poche aux éditions Belin pour les 10 ans de la disparition de Pierre-Gilles de Gênes. Vous avez eu la chance de rencontrer donc le prix Nobel de physique à plusieurs reprises pour cet ouvrage. Le Newton du 20e siècle, c'est une expression qui n'est pas exagérée pour parler de lui.
C'est une expression en tout cas qu'il n'aimait vraiment pas beaucoup. Il disait que c'était un peu une fantaisie des membres du prix Nobel de l'avoir qualifié ainsi. Mais voilà, il rejetait ce qualificatif en tout cas.
Et vous allez nous dire qui était exactement cet homme d'exception et bien sûr ce qu'il a découvert. Simon Thuot, on va parler avec vous de Scan Pyramids. C'est une exploration très ambitieuse des pyramides égyptiennes. Le mystère reste toujours entier autour de la construction de ces vestiges ?
Alors pour le moment, toujours entier, on a de plus en plus d'éléments qui nous permettent d'envisager une solution incessamment sous peu, on espère, mais en tout cas, toujours beaucoup de mystères autour de cette construction.
Et des nouvelles informations, on va parler avec vous grâce à ces technologies dont vous faites l'écho dans The Conversation France. Aline Richard, hein, bonjour.
Bonjour, The Conversation se met donc aux hiéroglyphes et à l'égyptologie. Et vous pouvez voir sur le site quelques caractères étranges.
Que vous avez déchiffrés pour nous, heureusement. Cyril Plou, vous êtes le fondateur d'un site internet qui a pour but de rendre accessible l'actualité de l'astronomie.
Oui.
Son nom, c'est Above Earth. Vous êtes un astronome amateur et passionné, comme on va le voir. Quelle est la dernière actu là, que vous avez postée sur le site aujourd'hui ?
Eh bien, la dernière actu, c'est par rapport aux 2 astéroïdes qui ont frôlé la Terre en janvier.
Ouais.
Voilà, qui ont donné quelques frayeurs et qu'on les a découverts au dernier moment.
Ah oui, ça, effectivement. On en parlera avec vous dans quelques minutes. Et voilà pour les sujets de ce club, avec les auditeurs qui nous rejoignent bien sûr pour les réactions et les messages sur franceinter.fr. Et quand notre système immunitaire se retourne contre nous, c'est à la une de la science.
Vous avez la grippe ?
Je crois.
Alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous ressentez ?
Eh bien, de très fortes courbatures, des maux de tête, je me sens vraiment pas bien.
Voilà, et c'était en quelle année ça d'ailleurs, ce son d'archives avec cette voix qui ressemble beaucoup à celle de Brigitte Bardot? C'était en 1960, voilà. Quand vous ressentez ces symptômes désagréables, eh bien c'est que votre corps est en train de se battre contre une infection et qu'il relargue des molécules antivirales qu'on appelle les interférons. Ces interférons sont essentiels pour nous défendre, mais ils sont également destructeurs à long terme. Et pour la première fois, une équipe française montre qu'il est possible de bloquer ces molécules de manière simple, et c'est l'objet d'une publication dans le journal Nature. Jean-Philippe Herbeval, bonjour.
Bonjour.
Nika Yasmis, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes l'un directeur de recherche et l'autre post-doctorante au CNRS dans cette équipe chimie, biologie, modélisation pour l'immunothérapie. C'est à la faculté biomédicale des Saint-Pères. Jean-Philippe Herbeval, quel est le rôle exact donc de ces interférons dans notre corps ?
Alors, les interférons sont, comme vous avez dit, des molécules antivirales et antibactériennes et aussi antitumorales. Donc, elles ont un rôle absolument essentiel, c'est de défendre le corps contre tout ce qui est pathogène.
On en a beaucoup ?
Alors, on en a beaucoup, on a des cellules qui en produisent beaucoup. Mmh. Et c'est les cellules que j'étudie, ce sont les cellules dendritiques, plasmacytoïdes, les PDC dans notre jargon.
Oui, merci.
Et ces cellules sont professionnelles de la production d'interférons, c'est-à-dire qu'elles ont elles en produisent jusqu'à 1000 à 10 000 fois plus que les autres cellules. Donc, ce sont vraiment les cellules au cœur de la réponse antipathogène.
Et vous venez de montrer qu'il est possible de bloquer la production de ces interférons. Mais quel est l'intérêt de les bloquer s'ils sont là pour nous protéger ?
Alors, ce qu'on a montré surtout, c'est que des molécules naturellement produites dans le corps,
ouais,
comme l'histamine ou la dopamine, donc des neurotransmetteurs, sont capables de réguler la production d'interférons, c'est-à-dire de faire un rétro-contrôle, histoire que la machine ne s'emballe pas.
Et en médecine, il pourrait être intéressant d'avoir nous-mêmes possibilité d'exercer ce rétrocontrôle ?
Ah bien sûr, puisqu'il y a maintenant de plus en plus, et ça depuis 5 ans, de très nombreuses maladies, on découvre que les interférons ont un rôle pathologique, et finissent par la destruction soit du système immunitaire, soit des cellules tissulaires.
Dans le cadre de la grippe, par exemple, on entendait cet extrait-là tout à l'heure. Comment ils agissent alors exactement ?
Alors, dans le cadre de la grippe en phase aiguë, c'est-à-dire les 2-3 premiers jours, vous avez une réponse très violente d'interféron pour éliminer le plus possible des virus. D'accord ? Et si cet état perdure, donc là, on fait des complications suite à l'infection par la grippe, et là, on a toujours autant d'interféron, mais en théorie, on aurait dû éliminer les virus. Donc là, l'interféron, au lieu d'éliminer les virus, va éliminer les cellules du corps.
Et là, c'est beaucoup plus embêtant.
Alors, Nikaya Smith, c'est vous qui avez mené le gros des recherches en pratique et c'est votre sujet de thèse qui se retrouve publié dans une revue prestigieuse, Nature. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez appris que le papier était passé ?
Beaucoup de joie parce que ça n'a pas été facile. Donc, trois ans de travaux et après, il faut arriver à convaincre... Le papier que c'est une découverte majeure. Donc,
comment on fait dans ces cas-là, alors, pour convaincre exactement ?
Beaucoup de travail.
Ouais, c'est dans l'explication même de
alors, c'est du dans travail ? C'est dans l'explication, c'est dans beaucoup de nouvelles techniques qu'on peut apporter pour prouver le message par différentes manières, pour que le message soit fort et passe bien et que les gens puissent bien comprendre ce qu'on a montré et l'importance surtout, car c'est relativement novateur, donc c'est toujours beaucoup plus difficile à faire passer un message qui est novateur et qui n'a pas encore été démontré.
Les mécanismes que vous venez de démontrer, ils sont très larges, ils peuvent s'appliquer pour de très nombreuses maladies. Quelle est la première piste que vous allez creuser ?
Alors, on est un laboratoire où on s'intéresse particulièrement aux infections chroniques, mais c'est vrai que toutes les maladies auto-immunes, c'est aussi extrêmement intéressant, comme le disait Jean-Philippe précédemment. Donc l'interféron peut avoir un rôle extrêmement délétère, notamment dans les pathologies donc auto-immunes.
Comme le VIH par exemple ?
Alors le VIH, voilà, c'est une infection chronique, et en effet, dans les phases chroniques du VIH, il y a beaucoup trop d'interférons qui détruisent les lymphocytes T, donc ces fameuses cellules dont on entend régulièrement parler, même si elles ne sont pas infectées, donc vous n'avez plus d'immunité.
Comment, Jean-Philippe Herbeval, on lutte contre le VIH en régulant le taux d'interférons dans le temps, pendant des années ?
Alors, oui, c'est ce que fait le corps. Le corps, naturellement, comme il détecte constamment des virus, il va produire constamment d'interférons. Or, nous, ce qu'on avait constaté il y a déjà 10 ans quand j'étais aux États-Unis, c'est que dans les amygdales de patients qui progressent, donc qui vont aller vers une phase sida, on retrouvait beaucoup d'interférons. Ce qui veut dire deux choses, que le corps produit tout le temps l'interféron et surtout que l'interféron n'est pas efficace puisqu'il n'élimine plus les virus. Donc, le sida arrive à bypasser la réponse interférente.
Ouais, mais alors là, concrètement, avec votre découverte, ça pourrait permettre quoi ? D'avoir de nouvelles stratégies thérapeutiques pour le sida ? On en est là, vraiment ?
On en est là, et d'ailleurs, hormis notre publication, en décembre 2016, donc vraiment très récemment, les gros pontes américains, et notamment Steve Dix, qui est le premier clinicien à avoir eu des patients VIH, démontrent clairement que la possibilité de traiter des patients avec des anti-interférons est une piste tout à fait possible pour le traitement du VIH.
Et ça, c'est très nouveau alors comme proposition, justement ?
Ah, c'est extrêmement nouveau.
Exactement. Dans le monde du VIH, il y a un peu deux stratégies. Il y a les virologistes qui s'attaquent au virus et il y a les immunologistes qui essayent de restaurer le système immunitaire. Donc les virologistes s'attaquent au virus et essayent de le détruire. Nous, on est du côté immunologiste et on se dit qu'il vaut peut-être mieux restaurer le système immunitaire et que le virus, on en a plein dans le corps. L'hôte principal a du VIH. Mais cependant, il a un système immunitaire qui est très bon.
C'est ce qu'on observe chez les singes, par exemple.
Exactement.
C'est-à-dire que ce sont des animaux qui sont porteurs du sida, mais sans en développer les symptômes.
Exactement. Donc l'idée,
ce serait exactement la même chose chez l'homme. Donc,
exactement.
Votre stratégie.
Alors, l'idée, c'est quoi concrètement ? C'est développer un médicament qui reproduit l'effet de l'histamine en question, dont vous avez prouvé l'effet ?
Absolument, parce que dans la publication, donc on a utilisé l'histamine, donc cette molécule naturelle qui est capable d'inhiber les interférons, et on a développé à côté d'autres molécules et notamment un antihistaminique très proche sur un point de vue moléculaire de l'histamine. Il a exactement le même effet sans avoir les effets secondaires que pourrait avoir l'histamine.
Et ça, c'est prévu pour quand ? Alors, est-ce qu'on a... C'est en développement, il y a des labos pharmaceutiques qui
Absolument.
S'y intéressent ?
Voilà, donc on va, au mois de mars, je peux en dire un petit peu plus, mais en tout cas, c'est des pistes, évidemment, qui intéressent les laboratoires pharmaceutiques.
Voilà, ben, merci parce qu'on a compris l'importance de votre découverte, avec donc cette publication dans Nature. Ça pourrait même intéresser Aline Richard, qui vous écoutait attentivement pour...
Elle m'a donné sa carte.
Je pense que prochainement, un article de vulgarisation dans The Conversation France.
Exactement, parce qu'il faut expliquer au plus grand nombre, justement, l'objet de vos travaux. travaux. Nikaya Smith, merci beaucoup. C'était votre première radio.
Oui, merci.
Voilà, et ben, on était très heureux que ce soit dans La Tête au Carré.
Très heureuse d'avoir été invitée ici voilà. aussi.
Et bravo à vous. Vous êtes une très bonne vulgarisatrice. Merci à vous et à vous également, Jean-Philippe Herbeval.
Merci beaucoup.
Vous êtes déplacé cet après-midi. Merci Axel.
À lundi.
Bon week-end et à lundi. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la Cour des comptes qui épingle deux grands pôles scientifiques dans la dernière édition du rapport annuel des sages de la rue Cambon, l'Université Paris-Saclay et le Muséum National d'Histoire Naturelle voient leur gestion critiquée. Ainsi, le cluster du plateau de Saclay souffrirait d'un pilotage défaillant mené par des acteurs aux intérêts divergents, tandis que le Muséum aurait fait des choix stratégiques imprudents, notamment concernant la rénovation du zoo de Vincennes, dont les coûts plombent les comptes de l'établissement. Le gène responsable de l'absence de nez identifié, un consortium de 50 chercheurs et 12 pays différents ont réussi donc à identifier le gène impliqué dans l'arynie, une malformation rare entraînant donc une absence de nez. Ce gène a surpris les chercheurs car il est aussi responsable d'une maladie musculaire qui n'impacte pas le visage des malades. De futures études sont prévues pour savoir si d'autres gènes sont impliqués dans l'apparition de cette malformation qui touche moins d'une personne sur 1 million selon les chercheurs. Et puis une batterie rechargeable au CO2 développée par des scientifiques de l'Université de Pennsylvanie. Cette batterie est mise en contact avec deux solutions aqueuses dans lesquelles sont dissoutes soit du CO2 soit de l'air ambiant. Cette dissolution entraîne une différence d'acidité entre les deux bassins, générant alors un courant électrique qui recharge la batterie. Si cette méthode n'est pas nouvelle, les chercheurs ont réussi à la rendre 200 fois plus efficace, et ce dans des conditions de température normale et avec du matériel bon marché, ce qui est inédit. Les scientifiques espèrent donc développer un système transformant en énergie l'excès de CO2 de notre atmosphère. Allez, c'est l'heure et le jour du club des Têtes au Carré dans un instant, juste après The Inspector Clouseau. Inspecteur Clouseau, à l'instant, All Right George.
La Tête au Carré, le club.
sur France Inter.
Et dans notre club des Têtes au Carré cet après-midi, un prix Nobel de physique, un astronome amateur et donc un égyptologue du 21e siècle. On commence justement avec vous, Simon Thuot, avec Aline Richard, pour un article donc vous signez sur les pyramides, l'égyptologie. Et on peut découvrir cet article sur le site The Conversation France. Aline, vous avez demandé à Simon Thuot de raconter justement ce projet d'exploration assez inédit des pyramides, hein.
Absolument, l'égyptologie fascine et on se faisait la remarque avec Simon que il y a beaucoup de romans, il y a beaucoup de choses, mais finalement on entend assez peu parler les chercheurs sur le sujet. Donc dans The Conversation France, on a décidé de faire un peu d'égyptologie et de raconter quelque chose qui est complètement dans l'actualité, c'est-à-dire ce projet absolument intéressant d'un point de vue scientifique qui s'appelle Scan Pyramids et qui veut révéler les structures en profondeur de ces géantes de pierre, comme les appelle Simon. Et l'article porte sur Khéops, et on raconte ce projet sur Khéops.
Avec donc Simon Thuot, l'appui de ces nouvelles technologies hein, qui vraiment bouleversent aujourd'hui la façon de faire de l'archéologie en Égypte.
Oui, bien sûr, et pas seulement en Égypte, mais en particulier sur le terrain égyptien, qui est ce qui m'intéresse tout particulièrement. Il y a de plus en plus de projets novateurs pour l'archéologie, notamment avec les nouvelles technologies qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin que ce que pourrait faire une équipe humaine avec les outils dont on dispose habituellement, qui nous permet d'émettre plus d'hypothèses, d'en confirmer, d'en infirmer beaucoup d'autres. Et même si le coût est évidemment parfois un peu élevé, ce sont des initiatives à encourager.
Alors, expliquez-nous justement le principe de Scan Pyramids, hein, qui a commencé donc en octobre 2015, qui réunit d'ailleurs des chercheurs du monde entier, parce que ça coûte effectivement beaucoup d'argent. Quelle est la vocation donc de cette exploration et surtout l'outil qui permet d'aller plus loin aujourd'hui pour pénétrer ces pyramides qui restent encore très mystérieuses?
Oui, alors le projet international, comme vous l'avez dit, avec évidemment les autorités égyptiennes, l'université du Caire, de Laval au Québec et de Nagoya au Japon notamment. Donc, il se concentre sur plusieurs pyramides en Égypte, notamment celle de Snéfrou, de Khéops et de Khéphren. Là, l'article porte sur Khéops parce que c'est en ce moment la plus emblématique sur ce projet. Et il y a plusieurs technologies utilisées, comme notamment la thermographie à infrarouge, qui permet d'observer les différences de température entre différents éléments de la pyramide. Et la thermographie de muons, muonique, qui est en fait l'étude d'éléments cosmiques qui se déposent sur Terre et qui permettent d'étudier d'éventuelles différences de densité au sein même de la pyramide.
Ah oui, donc là c'est vraiment des outils et des méthodes qui permettent d'aller plus loin dans l'histoire même de ces pyramides.
Eh bien c'est ce qu'on espère, les premières conclusions sont tombées en octobre dernier, donc c'est assez récent. Il y aurait a priori, d'après ces études thermographiques, des différences par rapport à un élément normal tel qu'attendu. Et là, on constate qu'il y a peut-être des cavités dont on ignorait l'existence jusqu'à maintenant et qui seront peut-être, on espère, effectivement découvertes par la suite.
Eh bien, on va écouter justement l'extrait d'un reportage mené par les équipes de TF1 et LCI. C'était en octobre dernier, justement, autour de cette opération Scan Pyramids.
Une entrée probablement rebouchée à la fin de la construction et qui constitue l'un des grands mystères de Khéops.
Quand on arrive dans cette zone-là, on ne peut pas s'empêcher de se poser un certain nombre de questions puisqu'on voit en fait que dans la zone qui est là, on a des chevrons, des restes de chevrons qui ont été brisés, que dans la zone en face, on a des appuis sur lesquels devaient aussi s'appuyer des chevrons. Donc on peut supposer, il y a pas mal d'écrits que les chevrons devaient s'avancer et surplomber en fait ce vide qu'on a là.
C'est donc sur cette zone que les chercheurs se sont d'abord focalisés. Et leurs résultats sont plus que prometteurs. La combinaison des différentes technologies employées met en évidence sous les chevrons une cavité qui part vers l'intérieur de la pyramide. Mais on ne sait pas encore s'il s'agit d'une salle ou d'un nouveau couloir.
Les scientifiques de la mission Scan Pyramids ont donc apporté la preuve de l'existence d'un nouveau circuit. Juste ici, sous les chevrons, derrière cette immense pierre, un ou plusieurs couloirs s'enfoncent dans la pyramide. Oui, la pyramide de Khéops renferme encore de nombreux mystères.
Alors, de nombreux mystères, Simon Thuot, mais quand même quelques réponses qui commencent à émerger aussi. Hein.
Oui, heureusement, parce que c'est ce qui permet aussi de faire avancer la recherche, bien sûr. Et donc on a ce projet qui nous permet de détecter d'éventuelles cavités qui seraient intéressantes. Et on a également une équipe parisienne qui a découvert un lot de papyrus il n'y a pas si longtemps et qui est en fait en partie un journal de bord d'un des Égyptiens qui travaillait sur le chantier de la construction de la Grande Pyramide. Et on espère que dedans, il y a les informations que nous attendons depuis si longtemps.
Oui, donc là, il y aura un petit travail de traduction hein, pour pouvoir évidemment
faire
un gros
travail. Simon est spécialiste des hiéroglyphes.
Ouais. J'essaye en tout cas.
Ouais. Donc vous êtes très fébrile dans l'attente justement de ces découvertes.
Hein. Ah oui, bien sûr, on en attend beaucoup et on espère que ce projet va aller loin et va nous donner des pistes pour nous, égyptologues et archéologues, pour aller encore plus loin et peut-être enfin percer le mystère de la construction des pyramides qui nous échappe en partie encore aujourd'hui.
Et celle de Khéops tout particulièrement, parce que c'est une géante parmi
ces
pyramides.
Qui est la plus emblématique, la fameuse dernière merveille du monde antique encore en place. Donc, quel autre monument en Égypte pour utiliser ce genre de technologie.
Alors, dans l'article de The Conversation France, justement, vous expliquez un petit peu les technologies qui sont utilisées, comme vous le faisiez tout à l'heure. L'idée, c'est quoi? C'est au fond de scanner, comme on le ferait avec un corps humain, pour voir en transparence, au fond, travers de la pierre?
Pas tout à fait. Donc, la thermographie infrarouge, d'abord, qui est qui a été le projet le plus court. En fait, c'était l'étude de la température de la pyramide au lever du jour, au coucher du soleil et à d'autres moments pour observer des différences de chauffage et de refroidissement de la pierre. Et la seconde, c'est donc la thermographie à muons où en fait, dans les salles de la pyramide ont été déposées de grandes plaques qui détectent le dépôt de ces muons. Et ensuite, les scientifiques récupèrent ces données qui sont en fait d'immenses taches de couleurs et ils peuvent en détecter la quantité déposée.
Incroyable.
Alors, il faut juste préciser ce que sont ces fameux muons. Alors, les muons, c'est des particules qui viennent du cosmos et qui traversent la Terre, les êtres vivants, les monuments, tout ce qui peut exister. Et alors, en fait, ce sont des particules élémentaires, des sortes, on pourrait dire, des sortes d'électrons lourds, quoi. Hein, c'est-à-dire, ils sont très très fortement énergétiques. Et donc, c'est grâce à cette énergie qu'on peut les capter. Et donc en fait, dans l'histoire de Khéops, il y a des détecteurs à muons, et à partir de là, ils peuvent effectivement arriver à ces taches de couleurs.
Voilà, exactement. Ils comparent donc les résultats à côté d'un résultat attendu si la structure était entre guillemets normale, c'est-à-dire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et en faisant cette comparaison, ils peuvent observer des anomalies qui sont donc les endroits où il serait opportun d'aller jeter un œil pour voir ce qu'on peut y trouver.
C'est quand même très beau de penser que la physique des particules puisse nous aider à révéler le secret des pyramides.
C'est vrai. Cyril Plou, est-ce que sur votre site, justement, vous abordez ces particules, justement?
Alors non, jusqu'ici, je ne connaissais pas.
Ouais.
Mais du coup, pourquoi pas? Effectivement, c'est très intéressant.
Peut-être prochainement, dans Above Earth, on aura un article sur les muons. En attendant, est-ce que justement ces technologies, Simon Thuot, permettent d'en savoir plus sur la construction même, justement, de ces pyramides et sur les techniques utilisées à l'époque? Parce que là aussi, les mystères sont entiers. Hein.
Alors, pour l'instant, pas encore. Ce projet-là, évidemment, peut déboucher sur beaucoup de recherches sur la construction en elle-même, mais pour l'instant, ne nous permet pas d'avoir d'informations sur les techniques de construction.
Ouais.
Elle nous permet, par contre, d'en savoir plus sur l'architecture, notamment intérieure, de la pyramide. Et donc, après, aux égyptologues qui travaillent sur ces monuments, d'en extraire le maximum d'informations pour en trouver, pourquoi pas, une ou plusieurs techniques de construction.
Parce qu'une pyramide comme Khéops, en combien de temps elle a été construite à l'époque?
C'est une bonne question et on n'est pas tout à fait sûr encore aujourd'hui. On estime actuellement que ça prendrait entre 20 et 25 ans pour construire un tel monument, même si certains auteurs anciens parlent de beaucoup plus.
Oui, c'est ça, parce que ça paraît peu quand même, 25 ans pour une pyramide qui fait 146 mètres de haut, c'est ça?
Voilà, qui faisait à l'époque 146 mètres de haut, oui, c'est la plus grande. Et voilà, on pense que ça prenait entre 20 et 25 ans, alors évidemment avec énormément de travailleurs sur le chantier.
C'est ça, des travailleurs, mais aussi des blocs de granit énormissimes à transporter.
Oui,
avec
certains
les
plusieurs
moyens
tonnes.
De l'époque,
À la pyramide de Khéops, c'est 2 500 000 mètres cubes de pierre, donc c'est quand même pas un petit édifice.
Et les fameux papyrus là, qui ont été découverts avec un journal de bord d'un chef de chantier, le BTP de l'Égypte antique, quand est-ce qu'on va pouvoir les décrypter
Alors c'est un journal de bord donc de quelqu'un qui charriait des pierres pour le chantier. Et une équipe de Paris, donc dirigée notamment par Pierre Tallet, travaille actuellement sur la traduction et on espère le plus vite possible la publication publication, ça devrait arriver bientôt, de ces lots de papyrus. Il y a autre chose, en plus du journal de bord, évidemment, mais je ne rentre pas dans le détail. Mmh. Mais on espère la publication très bientôt, parce qu'on est persuadé que les informations qui s'y trouvent seront essentielles pour la suite des recherches.
Donc ce papyrus date de l'époque de Khéops, hein?
Exactement. Ouais. Ça date de la construction de la pyramide.
Ouais. Vous nous rappelez la date, ou en tout cas l'époque exacte?
Alors Khéops, c'est la 4e dynastie égyptienne, c'est autour de 2500 avant Jésus-Christ.
Ouais. Donc évidemment, certainement des informations essentielles, majeures.
Des informations contemporaines dont on ne disposait pas jusqu'à maintenant et qui sont une découverte absolument incroyable pour des papyrus qui ont 4500 ans aujourd'hui.
Qui sont en bon état de conservation?
Qui sont en plutôt bon état. On a des fragments qui sont quand même assez importants et on en a d'autres aussi qui sont de vraies petites pièces de puzzle. Et là, c'est beaucoup plus compliqué tout
vous
de suite.
Vous les avez vus et vous...
Je n'ai pas eu la chance de les voir... Vraiment en face, j'ai vu beaucoup de photographies, quelques articles qui sont parus sur la question dans les revues égyptologiques. Mmh. Et je n'ai pas eu la chance de les voir, mais bon, comme tout égyptologue, j'adorerais pouvoir y jeter un coup d'œil.
Et vous avez lu, parce que vous êtes capable de lire, vous.
Oui.
Donc vous avez lu...
Alors ce qui a été publié a déjà en partie été traduit, évidemment, par ceux qui s'occupent de la mission, mais j'ai pu bien sûr voir ces articles qui sont disponibles pour les égyptologues et constater que la qualité graphique et la qualité du texte sont vraiment exceptionnelles pour des époques aussi éloignées.
C'est fascinant.
Bah, tout à fait, et c'est pour ça qu'on espère que ça va mener encore plus loin, parce que c'est des travaux qui prendront encore un temps considérable, et il faut encourager ces travaux.
Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment que votre métier est en train de bouger beaucoup, justement, grâce à l'apport de ces nouvelles technologies aujourd'hui? L'égyptologue, tel qu'on le voit toujours dans les romans ou dans les films, a beaucoup changé quand même.
Oui, hein, non, le Indiana Jones est devenu beaucoup plus un laborantin pour certains. Évidemment, les nouvelles technologies sont aujourd'hui indispensables si on veut aller plus loin que la recherche telle qu'on l'a pratiquée auparavant. Et notamment, on utilise beaucoup les nouvelles technologies pour l'étude des momies, par exemple, qui sont scannées avec des méthodes médicales très 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 avancées et qui sont également des projets magnifiques et qui nous permettent d'avoir des informations incroyables sur des choses dont on ne soupçonnait pas forcément l'existence.
Et le tombeau de Toutankhamon? On a du nouveau bientôt ou pas alors?
Eh bien, je sais qu'une dernière campagne de scan va être lancée là prochainement, mais a priori, il semblerait que ce soit plutôt pour clore le débat plus que pour confirmer les hypothèses, malheureusement. Ouais. Mais on n'arrive pas toujours à gagner.
C'est ça. Donc peut-être le point final dans pas longtemps en tout cas.
Mais on attend ça aussi avec impatience.
Ouais. Allez, Simon Thiot, vous restez avec nous et puis on peut retrouver cet article dans The Conversation France, Aline Richard, et dans un instant, nous allons du côté du ciel et des étoiles. et le jour, Calypso Valois.
La tête au carré. Le club.
1, 2, 3, inspiration, petit pas de pause. 1, 2, 3, expiration. Et on expulse bien tout l'air qu'on a dans les poumons, hein, d'accord? Et si vous voulez augmenter votre vitesse, eh ben vous n'avez qu'à allonger le pas. D'accord, Mathieu?
Avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Cyril Plouf, vous avez 29 ans, vous êtes réalisateur, graphiste, astronome amateur et donc vous avez fondé ce site internet aboveearth.fr. Pourquoi un titre en anglais d'ailleurs ?
C'est une bien bonne question. Je cherchais un titre et j'avais pas de titre français qui me c'est soit vrai. Venu à l'esprit comme ça.
Tout
et...
était pris Ciel et Espace, par exemple.
Oui, hein. Ciel et Espace, c'était pris. Science et Avenir aussi, je crois. Mais du coup, voilà. Et puis, je trouvais que ça résumait bien l'idée un petit peu du site.
Bon, est-ce que vous connaissez d'ailleurs les gens qui viennent cliquer chez vous, où ils sont, dans le monde
Alors, il y a maintenant des technologies où on sait à peu près d'où effectivement viennent les lecteurs, mais oui, c'est surtout français de toute façon.
Principalement.
Oui, majoritairement. Ouais.
Alors racontez-nous l'idée de ce site pour vous que vous avez créé il y a finalement assez peu de temps.
Il y a quelques mois, oui, j'ai créé ça. Je l'ai créé en août et je l'ai publié en septembre.
Ouais.
Et l'idée, en fait, c'est vraiment de rendre accessible tout ce qui touche à l'espace au plus grand nombre, au grand public, à travers voilà des contenus, des articles de vulgarisation, ou des podcasts, ou même pour les plus jeunes, avec notamment la page d'accueil qui est interactive.
C'est ça. Alors, on est dessus d'ailleurs, Aline Richard aussi, sur sa tablette. Là, on est en train de cliquer, par exemple. Donc, quelle est cette planète qu'on voit au centre? C'est Jupiter, parce que j'ai cliqué justement sur Jupiter. On a toutes les planètes du système solaire, justement, sur lesquelles on peut aller pour avoir un certain nombre d'informations.
Ça mène sur une page dédiée avec une explication et puis... une petite anecdote sur la planète.
Ouais. Voilà. Vous êtes tout seul pour construire ce site internet ?
Pour l'instant, oui. Ouais,
ça, c'est quand même étonnant, parce que c'est un boulot monstre quand même, non ?
C'est un petit peu de travail, surtout je fais ça à côté de mon, mon métier, donc oui. Mais bon, en même temps, je fais ça par passion, donc ça va. Ouais.
Alors, comment on s'attaque justement à un site quand même qui parle de science, quand on n'est pas soi-même scientifique ?
Eh bien, on s'attaque en lisant beaucoup, en rencontrant aussi j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'astronomes, astrophysiciens, qui ont pris de leur temps pour parler avec moi, m'expliquer les choses. Et voilà, du coup, je me renseigne énormément.
Ouais, Laurence Plévert, lire beaucoup, c'est une bonne idée. C'est ce qu'a fait exactement Pierre-Gilles Degenne, qui lisait énormément et qui a appris tout seul la mécanique quantique, d'ailleurs. Hein,
oui, exactement.
En lisant énormément d'ouvrages.
Oui. C'était à une époque où il n'y avait pas de cours, où l'enseignement de la physique était complètement sclérosé en France.
Ouais.
Et du coup, il apprenait tout seul dans les livres. Et puis on pourrait y revenir aussi, mais de toute façon, voilà, toute son éducation, il l'a construite lui-même.
Parfait autodidacte, effectivement. Cyril, vous, pas de parcours scientifique du tout ?
Non, du tout. C'est maintenant que je m'y mets et voilà. Et en fait, je retrouve à travers l'astronomie une vraie motivation pour découvrir tout ça que j'avais pas forcément avant. Et donc voilà, ça m'a poussé à chercher.
Et votre, quand vous dites que vous êtes astronome amateur, c'est-à-dire que vous faites vous regardez les planètes
je fais de l'astronomie moi-même. Et en fait, c'est comme ça que tout est né. C'est la première fois où j'ai vu Jupiter dans mon oculaire.
Où il y a eu une vous avez eu la Galilée. Vocation.
Ouais, c'était une sensation incroyable que je souhaite à tout le monde. Et c'est aussi pour ça que j'ai initié cette démarche.
Qu'on sait combien de clubs amateurs existent en France, par exemple ? Parce que l'astronomie, c'est un vrai phénomène.
Non, on a la chance d'avoir beaucoup d'associations en France. Ouais. Après, combien il y en a, je sais pas. Mais on peut en trouver vraiment partout.
Qu'est-ce que vous nous conseillez, justement ? Parce que moi, en allant sur votre site, justement, et puis en regardant un petit peu au noir, je me suis dit, il faut quand même que je m'achète une lunette un jour, quand même, parce que j'ai pu mettre l'œil dans plein de lunettes, évidemment, parce que j'ai des amis qui ont des lunettes où on va de temps en temps dans les observatoires, mais c'est vrai que pouvoir le faire à tout moment. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous conseillez justement à quelqu'un qui aurait cette démarche de vouloir regarder la Lune ou les anneaux de Saturne, par exemple ?
Alors, déjà, en général, je commence en disant, pour casser un petit peu les idées reçues, faire de l'astronomie, c'est pas quelque chose qui coûte cher. C'est-à-dire que pour 100€, on peut déjà avoir une très bonne lunette qui nous permette de voir quasiment toutes les planètes.
Mais on les voit bien, les cratères de la Lune, par exemple,
Extrêmement bien. La Lune est extrêmement proche, donc c'est assez facile. Moi, j'ai commencé avec une lunette, une petite lunette, et j'ai réussi à voir Jupiter et les bandes nuageuses avec.
Ouais.
Donc voilà. Après, si il y a vraiment un intérêt, on peut prendre un télescope qui est un petit peu plus gros, etc. On verra plus de détails, mais ouais. On peut commencer très facilement. Oui.
Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces initiatives de sciences dites participatives? Alors, dans votre domaine en astronomie, il y a beaucoup d'initiatives qui réunissent finalement un public amateur, amoureux de sciences et les chercheurs pour, dit-on parfois, co-construire des découvertes scientifiques. Vous en dites quoi?
Je pense que c'est extrêmement important parce que la science et la recherche se fait aussi avec les personnes qui ne sont pas impliqués directement, mais qui s'y intéressent. Si personne ne s'intéresse à un sujet, si personne n'est au courant d'un sujet, ça va être compliqué, ne serait-ce que pour avoir des fonds ou avoir des sous pour développer tout ça. Donc c'est très important que le grand public soit impliqué dedans et participe au développement.
Qu'est-ce qu'on peut demander au grand public, justement, dans le domaine de l'astronomie, d'aider à compter quoi, des nouvelles exoplanètes, par exemple? Ça, c'est possible quand on est amateur? Non.
Je pense que la simple, c'est pas quelque chose qu'il faut demander. C'est, moi, je dirais plus que c'est un conseil. C'est jeter juste un petit coup d'œil une fois dans une lunette et vous verrez peut-être que ça déclenchera autre chose, comme ça l'a fait pour moi.
Alors, sur ce site aboveearth.fr, on peut voir donc des vidéos, vous le disiez tout à l'heure. Vous avez rencontré quel type de scientifique, par exemple, Cyril?
Alors, j'ai rencontré une ingénieure qui a travaillé sur le Solar Orbiter de l'ESA. Je vais bientôt faire une interview vidéo d'astrophysicien de l'Observatoire de Paris. J'en dirai un petit peu plus parce que la vidéo va bientôt sortir, mais voilà. Et en fait, j'essaye de rencontrer des personnes qui ont envie de partager un petit peu leur recherche.
Vous suivez Thomas Pesquet, par exemple?
Bien sûr.
Vous êtes en contact avec lui via Twitter, par exemple?
Non, alors j'aimerais bien, mais je suis pas encore en contact.
Bon, Thomas, si vous nous écoutez, prenez Cyril sur votre compte Twitter. Il sera ravi, évidemment, de pouvoir
faire un petit live.
de pouvoir rapporter quelques informations de la Station Spatiale Internationale. Donc, ce site à découvrir en ce moment, et vous essayez de suivre l'actualité le plus possible et de mettre de nouvelles informations le plus régulièrement possible. Oui. C'est ça aussi le secret d'un site internet qui marche bien, c'est sa réactivité?
Oui, je pense, si on veut que les gens continuent à venir dessus, il faut qu'on soit au cœur de l'actualité et qu'on raconte tout ce qui se passe.
Et cet espace jeunesse alors que vous avez envie de créer?
Ouais, ça c'est très important pour moi parce que je pense que c'est un petit peu le futur en fait de la recherche et des ingénieurs. C'est les enfants d'aujourd'hui et du coup j'ai envie de développer effectivement un jeu interactif qui permette aux enfants de découvrir non seulement le système solaire, mais également les différents métiers liés à l'espace.
Oui, donc c'est en construction en tout cas.
C'est en construction, ça va prendre un petit peu de temps, mais je suis en train d'écrire le contenu et derrière, il faudra que je trouve un dessinateur, des partenaires, etc. Donc,
Eh bien, bon courage pour merci la suite. Beaucoup. En tout cas, on peut déjà aller cliquer comme on l'a fait sur aboveearth.fr. Il est en lien évidemment sur La Tête au Carré. Et Cyril Plou, vous en êtes le fondateur. On va parler d'une grande figure, très très grande figure de la physique dans un instant. Pierre-Gilles de Gennes, à l'occasion de la nouvelle édition de sa biographie et pour les 10 ans de sa disparition.
Ain't no MIBs, can I please? Do what we say, that's the way we kick it. Yeah, you know I mean? skim a noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. We're fearless semi-bees freezing up all the flag.
What that stand for?
Men in black, and
the men in black.
Let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me. Come on, let me see you take a walk with me, just walk it with me, take a walk with me. Come on, and make your neck work. Now freeze. In closing, I know we might seem imposing, but trust me, if we ever show in your section, believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be. So go with your life, forget the Roswell crap, show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in.
Men in Black et Will Smith à l'instant dans notre club. Laurence Plévert, vous signez donc la biographie du physicien et prix Nobel français Pierre-Gilles de Gennes. Biographie donc qui ressort en poche aux éditions Belin Alpha et l'occasion des 10 ans de sa disparition. Ce sera en mai prochain. Pierre-Gilles de Gennes, le gentleman physicien. Pourquoi d'abord est-ce qu'il a accepté que vous réalisiez cette biographie alors que de nombreuses personnes avant vous se sont cassées les dents?
J'ai appris ça après coup, en effet, qu'il y avait eu plusieurs tentatives avortées. Je crois que je suis vraiment simplement tombée au bon moment et que mon CV...
Parce que vous êtes physicienne de formation, ça a pu jouer à votre avis ?
Je crois que ça a influé sur sa décision, en effet, parce que j'ai fait des études de physique, chimie, des matériaux, à un niveau assez modeste quand même. Et en fait, il s'était dit, en voyant ça, que voilà, ça suffirait pour comprendre ses découvertes. En fait, ça a été vraiment compliqué pour moi de saisir l'essence de ces découvertes. Ouais. Mais bon, voilà, ça le rassurait que j'ai quelques bases en physique chimie.
Et donc, en 2005, il vous donne son accord. À une condition, c'est que ça parle de science.
Exactement.
Bah, c'était compliqué de faire autrement quand même. Hein.
C'était vraiment l'accord tacite et plus que tacite entre lui et moi. Il fallait que ça parle de science.
Ouais. Voilà. Et alors, il s'implique vraiment dans ce travail avec vous ? C'est-à-dire qu'il interrompt ses recherches pendant quelques temps, en tout cas le temps des entretiens ?
Exactement, j'ai eu beaucoup de chance parce que les entretiens duraient à chaque fois environ 2 heures. Mmh. Et puis, c'était un peu à volonté, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'à certaines périodes, on s'est rencontrés toutes les semaines. Ensuite, voilà, lui, il avait d'autres projets, moi aussi. Donc, on s'est revus ensuite 6 mois plus tard. Et, et donc, au total, il y a eu une vingtaine d'entretiens. Et puis, par ailleurs, c'est pareil, il m'a donné aussi un feu vert pour contacter tous ses proches.
Oui, ils sont nombreux, hein, parce que vous les remerciez au début du livre, ils sont extrêmement nombreux, c'est incroyable. Hein.
Oui, ben, il connaissait énormément de monde. Et puis, à la limite, je suis encore frustrée de ne pas avoir pu interviewer certaines personnes qui ont été ses élèves, ou aussi des étrangers, enfin... Voilà, plus on rencontre de gens, plus on a des personnes qui nous racontent quels étaient leurs Pierre-Gilles de Gennes, plus on peut être plus proche de ce qu'il était.
En tout cas, vous avez pu travailler à partir de nombreux documents, hein, des carnets qu'il a tenus au tout début de sa carrière, c'est ce que vous racontez, des agendas, des correspondances, et puis bien sûr, ses publications.
Oui, ses publications aussi, effectivement, à un moment de nos entretiens, il a sorti sa liste de publications qui est très longue. Oui. Et je me suis dit, mais comment on va faire avec ça? Et en fait, voilà, donc il pointait et c'était assez amusant.
Il les commentait en même temps. Hein.
Voilà, c'est ça. Et il s'arrêtait plus souvent sur certaines publications qui contenaient des erreurs d'ailleurs. Il avait cette espèce d'humilité de dire, ah là, je me suis complètement trompée, il faut que vous racontiez ça. Et voilà, et après il pointait aussi les publications majeures qui ont été très nombreuses aussi.
Aline, est-ce que vous l'avez rencontré, vous qui avez été directrice du magazine La Recherche, par exemple? Vous avez fait des entretiens avec Pierre-Gilles Degenne ou pas?
Non, j'ai pas eu cette chance. En fait, je l'ai rencontré une seule fois lors d'une sorte d'événement type colloque. Mais c'est de toute façon un des grands scientifiques. Qui a marqué la physique. On a eu d'autres, d'ailleurs.
Un grand regret, d'ailleurs, de ne pas l'avoir rencontré. Pour nous également, aussi, à la tête au carré, parce que l'émission a commencé en 2006 et il nous a quittés l'année suivante.
Puisque je crois que ce qu'on peut aussi se rappeler, c'est aussi de son implication dans ce qu'on peut appeler le social, c'est-à-dire la transmission.
Oui, évidemment.
La transmission des connaissances. Et pour moi, qui suis journaliste, spécialiste de sciences et qui a envie de transmettre, comme on l'a fait là avec Simon sur l'égyptologie, je crois que c'est vraiment important que des scientifiques de ce niveau-là puissent se dire, mais moi j'ai envie de parler à tout le monde.
Oui, et c'est ce qu'il a fait avec les enfants, évidemment.
Oui, il s'est vraiment beaucoup impliqué à aller faire des conférences dans, je crois que c'est environ 200 collèges et lycées, pour parler directement aux jeunes. Et il avait à cœur de stimuler leur curiosité, de les pousser à sortir des sentiers battus. Il prenait l'originalité. Et souvent, il se plaignait aussi du système éducatif français qui trouvait vraiment trop rigide et puis pas assez pragmatique, laissant pas assez de place à la créativité. Et il se bagarrait pour essayer de changer ça. Ouais,
et puis, il y a tout ce travail qui a été fait avec Pierre Léna et Yves Quéré, quand même, avec Pierre-Gilles Degenne. Hein.
Ils avaient lancé tout ce qui était un peu physique expérimentale auprès des jeunes, etc. Ouais.
Alors, quelle impression vous avez eue, vous, en le rencontrant? Parce qu'on voit cet ogre qui, justement, est décrit par Quéré dans l'introduction de votre livre, quelqu'un d'extrêmement charismatique, de protéiforme. Quelle impression il donnait comme ça quand on le rencontrait?
Je crois qu'effectivement il laissait personne indifférent et on a du mal à imaginer le charisme et c'était quelqu'un de lumineux quoi. Une grande simplicité, une grande gentillesse également.
On va écouter sa voix évidemment à l'occasion de l'attribution de son prix Nobel et c'était extrait d'une archive de 1991.
Trois exemples. Un relativement ancien qui est les cristaux liquides qui servent à afficher dans nos montres comment ça marche et comprendre un peu comment ces choses-là fonctionnent. Un exemple plus récent, c'est la science des polymères, des matières plastiques, des fibres textiles. Comment on fait une fibre qui défile à toute vitesse à 6000 mètres minutes de nos jours dans une machine. Et on a introduit une idée là-dedans qui a permis d'éclaircir beaucoup de choses. Le point 3, la science des cols, l'adhésion. Du point de vue pratique, c'est extraordinaire. Du point de vue de comprendre ce qui se passe et de comprendre les principes, on en est encore au balbutiement. On ne sait pas du tout expliquer à des étudiants des principes simples qui leur permettent d'entrer vite dans des problèmes d'adhésion. Et c'est ça que j'essaye de comprendre en ce moment.
C'est le couronnement de votre carrière aujourd'hui ?
Oh, je trouve que le couronnement de nos vies, c'est pas du tout dans les récompenses. C'est surtout dans nos enfants. Je dirais qu'il faut surtout pas que ça fasse trop. Il faut surtout pas se laisser, absorber par une certaine médiatisation, dont vous êtes un exemple. Moi, j'aime mon travail et je veux arriver à le continuer. C'est ça, mon attitude essentielle.
Voilà son rapport avec les médias. Hein. Donc c'est vraiment le moment de l'attribution de son prix Nobel et de son annonce en 91, Pierre-Gilles Degenne.
Votre extrait, je trouve, est très bien choisi et le représente tout à fait, quoi. Et donc son charisme aussi passait extrêmement bien à la télévision, quoi. Dès qu'il est allé sur les plateaux de télévision.
Du Nobel, il est passé dans un autre monde, hein, quand même.
Exactement. Hein. Oui, exactement.
Vous décrivez l'arrivée pour lui, je crois que c'est au Collège de France, hein, où toute la presse, les journalistes l'attendaient. Il y avait un monde
fou. Une armada de caméras. ouais. quoi. Et donc, il crève l'écran, et puis il a cette simplicité. Il arrive aussi souvent sur les plateaux de télévision avec une petite manip, un bâton dans une éprouvette, du sable, et puis il ouais. agite, et puis voilà, ça se décolle plus, ça se décolle. Donc, voilà, il plaît absolument. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'a pas fait ça... pour son ego gratuitement d'aller de devenir une icône des médias. En fait, il défendait son école dont il était le directeur, le SPCI, qui était vraiment menacée depuis des années. La ville de Paris voulait s'en débarrasser et donc il est monté en puissance ouais. dans les médias pour défendre son école ouais. et ça a marché.
Alors dans l'introduction du livre, vous racontez qu'au moment du Nobel, dans l'avalanche de courriers justement qu'il a reçu, il y a une lettre qui vient d'une amie d'enfance qui l'a beaucoup amusé, hein, parce que cette amie lui écrit « Je ne suis pas surprise que tu aies reçu le prix Nobel parce que j'ai entendu ta mère en parler à la mienne avant même que tu naisses
». Sa mère était une personnalité incroyable de ce qu'on m'a évidemment décrit. Elle était très exigeante. Elle était extrêmement fière de son fils qui avait des prédispositions vraiment atypiques. Et surtout, elle s'est chargée seule de l'éduquer. Quoi. Je pense que c'est une composante assez importante chez Pierre-Gilles de Gennes, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout suivi les contraintes de l'école. La première fois qu'il a mis les pieds à l'école, il avait déjà 10 ans. Au lieu d'aller dans ce qui était l'équivalent d'un CM2, il est allé en classe de 5e. Et jusqu'à là, il avait appris... par lui-même, guidé ouais. par sa curiosité dans les livres. Et ensuite, à l'âge de 13-14 ans, c'est pareil, sa mère le trouvait trop jeune pour rentrer au lycée. Et donc, il a pris une année sabbatique à Paris, où il a appris au Palais de la Découverte, au Louvre,
Absolument.
Etc., par lui-même.
Ouais. Et donc, élevé, entouré, chéri par sa mère, sur un piédestal. Hein. C'est ce que vous décrivez
oui,
vraiment,
oui.
Hein, et qui lui a permis aussi peut-être de construire cette personnalité aussi hors du commun. Les années 50, l'année 55 d'ailleurs, hein, vous dites c'est vraiment le début de sa carrière de chercheur, c'est la période aussi des toutes premières fois, la publication de son premier article, ses premières conférences internationales, ensuite ses premiers grands succès, et vous dites à quel point il est au cœur d'une science en marche, Pierre-Gilles de Gennes, hein, dans
oui.
cette physique bouillonnante.
Oui, et là, il remercie souvent, comme le décrit aussi le physicien Philippe Nozière, c'est-à-dire que l'enseignement de la physique était vraiment poussiéreuse lors de l'après-guerre. Mm-hmm. Et heureusement, il y avait quelques livres en américain qui ont permis d'accéder à la physique quantique qui était indispensable pour ouais. faire de la physique à cette époque. Et il y a eu la fameuse école des ouches, créée par une jeune fille physicienne, Cécile de Witt, mm-hmm. qui invitait des jeunes étudiants à côtoyer les plus grands noms de la physique mondiale, surtout américaine. Et là, ça a été vraiment un déclencheur, décrivent Philippe Nozière et Pierre-Gilles
de Gennes. Absolument.
Degenne.
Et partout où il passe, on sent vraiment qu'il fait l'admiration aux États-Unis, par exemple. Les Américains, dès les années 55-57, parce qu'il arrive à Berkeley, sont stupéfaits par le charisme de Pierre-Gilles de Gennes.
Oui, exactement. Effectivement, il a la chance de passer une année de post-doc chez Charles Kittel, qui est vraiment un grand maître de la physique des solides aux États-Unis. Et il ne laisse pas indifférent, au point que Charles Kittel lui a proposé la citoyenneté américaine et de rester dans son laboratoire.
Simon Thuot.
Oui, alors c'est fascinant et on sent, d'ailleurs ce que vous expliquez, qu'on a l'impression que le scientifique en tant que personne s'effaçait presque derrière ses découvertes et ses recherches pour populariser sa discipline et la rendre accessible. Et ça me fait un peu penser au philosophe Gilles Deleuze qui refusait qu'on diffuse ses interviews avant sa mort et tout ça. Et ce qui m'intéresserait, c'est comment est-ce que vous avez construit les entretiens avec Pierre-Gilles de Gennes. Pour Deleuze, c'était des mots qu'on lui donnait et il improvisait dessus en tant que philosophe. Là, comment est-ce que vous avez construit vos entretiens?
Au début, on a tenté de débroussailler sa vie. Donc ça prenait vraiment des détours au fil de la conversation, comme ça. Ensuite, effectivement, il y a eu le cheminement plus scientifique, à la fois chronologique et puis à la fois dans d'autres thématiques, en croisant comme ça. Parfois, j'avais eu des entretiens aussi avec d'autres physiciens et du coup, je rebondissais. On m'a dit ça, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, c'était assez décousu, en fait.
D'accord. Laurence Plévert, qu'est-ce qu'on retient alors de Pierre-Gilles de Gennes parmi toutes ces découvertes, ce Newton du XXe siècle? Alors, la matière molle, qu'est-ce qu'il faut retenir?
Oui, donc Pierre-Gilles de Gennes, avant tout, effectivement, c'est le fondateur de la matière molle qui touche des objets aussi différents que les bulles de savon, les plastiques, etc. Et puis, c'est l'appétit de vivre et la curiosité, l'exaltation et l'enthousiasme.
Et tout ce parcours incroyable, évidemment, Et ces découvertes qui ont complètement changé la physique aussi, hein, et la façon de faire de la physique.
Exactement. C'est comme le dit très bien David Kerry dans la préface, Pierre Gideogène, c'est une école, c'est un style où il fait de la physique plus avec les mains qu'avec des équations très compliquées. Il y a vraiment une économie de moyens. C'est des équations très simples qui rendent ça élégant, justement.
Et c'est donc cette biographie qui arrive en poche chez Alpha et Belin, Pierre Gideogène, gentleman physicien, avec cette préface de David Kerry que vous signez, Laurence Plévert. Merci beaucoup d'être venu dans notre club. Merci à tous et passez un bon week-end.